Oui. Un dernier protocole de fin de grève signé ce matin, des débats qui continuent à l'Assemblée, le pays qui veut réguler la location en Airbnb et des nouvelles de Miss Tahiti au programme de ce journal. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
La frappe était de nouveau au gouvernement ce matin.
Oui, rassurez-vous, le syndicat n'était plus devant les grilles. Son mouvement de grève dans la fonction publique a été levé hier après toute une nuit de négociations. Mais ses responsables étaient tout de même conviés par le gouvernement pour une nouvelle signature, celle d'un protocole spécifique à la direction de l'équipement qui avait eu le droit à son propre préavis. On y parle pêle-mêle de remplacement des téléphones de service, des procédures de recrutement pour les travaux en région, d'un meilleur accès aux visites médicales et aux services de la CPS pour les agents ou encore d'astreintes qui jusqu'à présent ne sont pas payées alors que l'équipement peut être déployé à chaque incident et épisode de pluie. Plusieurs de ces points étaient déjà dans les tuyaux du gouvernement. Beaucoup ouvrent la porte à de discussions en plus long cours. Sur la pénibilité par exemple, définie de façon très peu précise par les textes actuels et que beaucoup voudraient voir prise en compte dans les règles de départ à la retraite. Car pour Steven Ray de La Frappe, beaucoup d'agents arrivent à 55 ans avec des pathologies et des compétences qui ne leur permettent plus de faire du terrain.
C'est des problèmes au coude parce qu'ils tiennent la débroussailleuse, c'est des problèmes de dos parce qu'ils portent des charges lourdes, parce qu'ils sont assis toute la journée dans un engin, dans un camion et que ça tape. C'est aussi des problèmes de genoux parce que, à force de porter des charges lourdes également, on s'abîme. Donc ces agents-là, malheureusement, à l'heure actuelle, aucun dispositif de reconversion ne leur permet d'assurer des tâches administratives dans l'administration, dans la mesure où en plus ils ne savent pas un ordinateur, envoyer des mails, ils ne connaissent pas. Donc là, il y a un tel apprentissage et beaucoup, il faut le dire, beaucoup ne fonctionnent par compte haïtien. La pénibilité, ce qu'on espère faire en tout cas, et au travers du dispositif que nous mettrons en place, c'est simple, c'est de pouvoir leur permettre de partir à la retraite sans abattement.
Voilà, Steven Ray, secrétaire général adjoint de La Frappe et représentant de l'équipement, qui a donc signé ce protocole avec le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, mais aussi Vanina Krolas, en charge de la fonction publique. Une ministre qui explique non seulement que les revendications traitées à l'équipement sont légitimes, mais aussi que beaucoup d'autres services doivent voir leur organisation évoluer.
Effectivement, nos agents subissent parfois des conditions de travail et un mode de fonctionnement qui ne peut plus durer. Comme Jordi l'a dit, c'est pas déjà fait l'objet de discussions avec toutes les organisations syndicales, pas seulement La Frappe dans le cadre des réunions de dialogue social. Mais bon, comme ils l'ont dit, ça ne va pas assez vite. En fait, on est en train de rattraper des années de négligence qui nous coûtent cher aujourd'hui, mais on n'a pas le choix. Si on veut construire l'avenir, il faut réparer le passé, il faut réparer le présent.
Voilà l'exécutif Tavini qui accuse donc le Tapura d'avoir laissé beaucoup de demandes en déshérence et de ne pas avoir respecté tous ses engagements vis-à-vis de ses agents. Petit à petit, on exhume des cadavres. Voilà ce que dit Vanina Krolas qui explique que pour contenir le coût de ces réparations, il faut aussi optimiser les effectifs et donc les faire baisser. Pour rappel, la masse salariale du pays atteint près de 35 milliards de francs au budget 2025 qui est discuté en ce moment à l'Assemblée. C'est 757 millions de plus que l'année dernière. C'est probablement moins que l'année prochaine puisque de grandes négociations sur le point d'indice des fonctionnaires sont prévues entre mars et avril.
On parle logement maintenant. Le pays veut réguler la location en Airbnb dans certaines zones.
Oui, la direction à l'habitat et à la ville, la DHV, a été chargée en 2025 de créer un groupe de travail sur la réforme de la location saisonnière. Elle devra aussi lancer une étude sur son impact sur la location longue durée et elle a reçu pour ça une enveloppe de 29 millions. Alors de quoi interpeller à l'Assemblée Inamweura Morgante qui défend l'intérêt de ces logements moins chers et désormais plus nombreux que les chambres d'hôtel au Fénoua. Au micro de l'Assemblée, l'élu toujours du côté du Tavini s'interroge de la vision du gouvernement sur les Airbnb et souhaite savoir si l'exécutif veut resserrer les règles sur ces logements bien pratiques pour les touristes et souvent bien lucratifs pour leurs propriétaires.
Ils répondent aussi à une demande. On a aujourd'hui des hôtels qui sont extrêmement chers et avec une location saisonnière, vous pouvez avoir une nuit à partir de 12 000 francs. Ils répondent aussi à ce qu'on souhaite. 600 000 touristes, il faudra bien les loger, surtout avec la non-réouverture de certains hôtels. Donc je trouvais ça dommage que l'année dernière, lorsqu'on avait décidé de mettre en place une fiscalité qui était plus contraignante vis-à-vis de ces locations saisonnières, ça n'allait pas en corrélation avec le programme et cette volonté de 600 000 touristes.
Et le gouvernement a effectivement l'intention de mieux réguler, comme le lui a immédiatement confirmé Moëté Brozerson, qui est personnellement en charge du logement.
Force est de constater que la location saisonnière, parce que la nature a horreur du vide, est venue combler un déficit en clés dans l'hôtellerie classique. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a plus de clés dans cette location saisonnière que dans cette hôtellerie classique en Polynésie. Maintenant, il est vrai aussi qu'on a une tension extrême sur le marché du logement locatif à l'année. On a des personnes qui n'arrivent pas à se loger parce que le moindre logement est mis en, je vais dire Airbnb parce que tout le monde comprend, mais en location saisonnière.
Et pour Moët et Brotherson, l'idée est donc de trouver un équilibre, de rationaliser comme ça se fait partout dans le monde, dit-il. Il donne par exemple l'exemple du Pays Basque qui a fixé un nombre de jours maximum de location en Airbnb par logement, ou encore celui de New York qui, dit-il, a carrément interdit la pratique, même si la location de chambre au sein d'un logement y reste légale. La location saisonnière a sa place en Polynésie, voilà ce que dit encore Moët et Brotherson, mais il s'agit à minima de réguler dans les zones sous tension.
En mer, le Siatea est entré dans la passe de Papeete hier.
Oui, parti de Nouméa le 28 novembre, ce remorqueur calédonien loué par le port autonome doit remplacer le temps de sa réparation le Haito Nui 2 qui avait violemment, souvenez-vous, heurté une patate de corail à Hitia le 4 octobre. Les circonstances de cet accident font d'ailleurs l'objet de deux enquêtes, elles n'ont toujours pas été officiellement éclaircies. Des expertises sont encore en cours sur le navire, notamment par les représentants de Rolls-Royce qui a construit les moteurs pour avoir une idée précise des travaux à mener et surtout de leur coût.
Côté transport, Edouard Fritsch ne veut ni feu ni piste cyclable à Pirée.
Oui, le projet du ministère de l'équipement de supprimer trois ronds-points à Pirée et de prolonger l'onde verte qui doit fluidifier la circulation ne plaît pas du tout au Tavana de la commune qui a interpellé Jordi Chan ce matin à l'Assemblée. Il prédit d'énormes problèmes, il assure que ça va aggraver la circulation en amont à Arue et Maïna.
En mettant des feux, il risque de freiner effectivement. Et le matin, c'est important, puisque c'est Arue derrière qui en souffle, et voire Mahina, et puis peut-être au-delà. Donc l'expérience que nous avons menée à l'époque sur la commune de Mahina a montré toute son inefficacité, et on a dû éteindre le feu. Rappelez-vous, c'était au rond-point du collège.
Et en réponse, Jordi Chan a noté, d'après l'expérience sur la portion de route plus proche de Papeete, qu'il pense que la suppression des ronds-points et l'installation de feux qui coûteront 800 millions permettra réellement de fluidifier le trafic. Une étude sera menée au premier trimestre de 2025, doit le confirmer. Quant à la piste cyclable, le ministre indique qu'elle concerne la route secondaire côté montagne.
Et justement, attention à la circulation demain après-midi à Papeete.
Et oui, c'est souvent déjà assez chargé hein, dans l'après-midi sur les routes, notamment le vendredi. Eh bien, ça risque de l'être encore plus, puisque Papeete, centre-ville, organise son grand marché de Noël annuel de 17h à 23h. La circulation, elle, sera modifiée. En conséquence, un peu plus tôt, la rue Jeanne d'Arc et les abords de la cathédrale seront bloqués à partir de 14h. La promenade de Nice sera fermée à 15h. Et enfin, la zone du marché de Papeete, notamment la rue du 22 septembre, la rue Édouard-Anne, une partie de l'avenue du Maréchal Foch et une partie de l'avenue du Général de Gaulle, elles seront bloquées à partir de 17h.
Et puis en métropole, notre Miss Tahiti séduit la presse avant l'élection.
Oui, vous le savez, le titre de Miss France sera remis samedi matin, heure du Fénois, et forcément les pronostics vont bon train. On a donc fait un petit tour d'horizon. Le quotidien national Le Parisien décrit Temanava Domingo comme la Miss parfaite, tandis que le magazine Au Féminin la classe parmi ses 6 préférées, et elle est même dans le top 5 de Paris Match. Pour autant, Miss Tahiti n'a pas été retenue dans les pronostics gagnant du cabinet Avisia qui s'appuie sur des données et l'intelligence artificielle pour faire ses prédictions. L'IA mise cette année sur une victoire de Miss Guadeloupe suivie de Miss Martinique et de Miss Nord-Pas-de-Calais. Cependant, il faut noter que l'année dernière, l'intelligence artificielle s'était trompée. Le cabinet avait prédit la victoire de Miss Côte d'Azur et c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, F. Gilles, qui avait décroché la couronne. Pour savoir qui va donc lui succéder, rendez-vous samedi matin et c'est à partir de 10h, heure du Fénois. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous retrouverez l'information avec le flash de 16h.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.